Au printemps, la nature change de peau. Les verdoissiers marronnent, les marronniers verdois. Le chat huant hu, le pampu en pu, le matou mutant mu. Bernard-Henri Lévy refait sa mise en pli.
CO2, mon amour.
Les effluves érotiques sont dans l'air qui sent le mur chaud et la sève des sous-bois. Les jours rallongent, mais il n'y a pas que, dit l'obsédé. Si vous habitez la campagne, dites-vous bien qu'il est absolument désolant de regarder les conneries télévisuelles de 20h30, alors même qu'un soleil rouge vient échouer ses rayons tièdes sur la façade de votre maison. Pensez donc à bien fermer les volets dès 18h.
Avec Denis Chessou.
C'est au printemps, hélas, que le doux employé se meut soudain en brute briseuse de planches, gâcheuse de plâtre ou décapeuse de parquets innocents. Au printemps, le non-bricoleur se sent très seul, aussi seul que Black sans équerre.
Sur France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature et encore plus avec ce printemps aujourd'hui à la technique Vincent Godard, Julien Michel et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Alors, sont-ils en grève, les oiseaux? Eh bien non, 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 heureusement, ils sont là, ils ne sont pas rancuniers. La bande son du monde emplumé, roucoule, zinzinabule, comme le hibou bubule, cocarde, de bavarde, bref, ils parlent le piaf. Non, ils ne sont pas rancuniers, car faut aller haut, gagner en altitude pour vivre. Et oui, une équipe de chercheurs internationaux, dont le CNRS, avec l'université de Picardie-Jules Verne, a observé une accélération de l'augmentation de la biodiversité sur les sommets. On analysant 302 sommets européens. Alors, les plantes, la flore, grimpent, colonisent plus haut, car il y fait plus doux. Mais, rappelez-vous, un ancien succès de Pete Seeger, repris par Graham Allwright, expliquait comment Richard s'est débarrassé de ses parasites corporels en se plongeant nu dans la rivière, coiffé d'une grosse chaussette de laine sur la tête. Les poules sont montées dans la chaussette, mais Richard s'est noyé. De la même façon, le mont Ararat en Turquie a vu débarquer tous les animaux de la création, mis à l'abri du déluge par un homme qui avait les idées très très larges et qui s'appelait Noé. Aujourd'hui, la biodiversité semble, selon les scientifiques, prendre les mêmes chemins escarpés pour se réfugier au plus près du ciel bleu. Les basses altitudes devenues climatiquement moins habitables, eh bien les espèces tant animales que végétales se replient vers les sommets. Alors problème, si par cette manœuvre de la dernière chance, la biodiversité indigène va tenter de survivre plus haut, eh bien qu'adviendra-t-il des espèces endémiques, des prairies, d'alpages par exemple, à qui il ne reste plus que la solution de monter vers les nuages. Eh oui, sans doute pour y écouter le grand Jacques, lui aussi monter au ciel. Et nous? Alors que faisons-nous pour le climat et la biodiversité? Eh bien, une réforme constitutionnelle. Et là, l'ami Thomas Legrand l'a très très bien analysé l'affaire. C'était jeudi matin sur France Inter, piqûre de rappel.
La protection du climat est introduite dans l'article 34. Qu'est-ce que l'article 34? Alors là, il faut faire un peu de droit constitutionnel. Arrêtez une minute de vous brosser les dents, posez vos tasses de café. L'article 34, c'est celui qui liste et qui définit le domaine de la loi. Donc, il sera dit que le législateur pourra faire des lois pour protéger le climat. Merci pour lui, il pouvait déjà, sans que ça soit spécifié. En revanche, cette inscription dans cet article, précisément cet article 34, ne permettra pas aux citoyens ou aux parlementaires de faire retoquer par le Conseil constitutionnel une loi qui serait néfaste pour le climat. Par exemple, une loi qui autoriserait la fragmentation hydraulique, l'exploitation des gaz de schiste ne pourrait pas être retoquée. Il aurait fallu, pour que ce soit possible, que la protection de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique soient hissées au rang de principe constitutionnel dans l'article 1er, par exemple. Pour donner du grain à moudre aux quelques députés macrono-écolo, le gouvernement permettra à ses députés d'amender le texte et d'y ajouter glorieusement la biodiversité. Mais c'est du grain à moudre totalement décaféiné, parce que une phrase placée dans le mauvais article de la Constitution ne sert toujours à rien, même si elle est plus longue ou plus précise. La conscience écologique de ce gouvernement en est encore à ses balbutiements. De ce point de vue, le macronisme reste très ancien monde.
Merci Thomas Legrand. Le gouvernement donc invente le premier greenwashing constitutionnel, comme l'a pointé aussi la Fondation pour la Nature et l'Homme. Alors, eh bien, relevez la tête de vos écrans. Le long terme, encore et toujours aux abonnés absents des institutions. Et le champagne? Eh bien, le champagne depuis hier, il est un peu bouchonné.
J'ai chanté sous un cèdre du Liban qui avait 400 ans. Toi, je lui parlais comme ça. On a fait tout un concert sous un cèdre du Liban, magnifique, majestueux. Et je souhaite vraiment devenir aussi majestueux et simple et naturellement majestueux que ces vieux arbres, quoi. Parce que c'est bon, un vieil arbre, on peut lui parler. Et il vous regarde, puis il y a les écureuils qui courent dessus. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a toutes les feuilles, toutes les branches dressées vers le ciel et toutes les racines implantées dans le sol. Et c'est mon cas.
Champagne, dans le cœur, le bouchon nous a claqué. Alors il est parti au premier jour de vrai printemps, hein, de montée de chaleur. Printemps que l'on va faire tourner dans notre ronde et qui lui est dédié. Alors il s'est enciélé une nuit, un matin de lune pleine et ronde, prêt à enfanter de nouveau Pierrot, de nouveau Jaco. Un oiseau de moins sur l'arbre à chanson ? Ah ben non, la preuve.
COD, mon amour, sur France Inter.
Ce qui est dit doit être fait, ce qui est fait est écrit. C'est comme ça, c'est la vie. 24-9-90, ma petite gonzesse a vu le jour. Dans la nuit, c'est comme si un tremblement de terre, un volcan, un raz-de-marée me secouait de la tête aux pieds. Le long de la voie lactée, le long de la voie lactée. Soleil de plomb dans la nuit noire, je me sens comme un lion dans un square. C'est la vie, c'est le traquenard. De l'aube jusqu'au lendemain matin, j'ai alerté tous les pingouins de ma galaxie. J'suis papa. Si on savait tout de ce qui nous reste à prouver, est-ce qu'on se mouillerait jusqu'au cou pour le genre de petite beauté qui vous ligote au pied de son berceau? Va, ma reine, va là où tu veux. Mon amour jamais ne te quittera des yeux. Va, mon ange, ouvre le chemin à l'étrange aventurière du destin. Tant de folie et trop de misère, tout ce qui a été dit reste à faire. C'est comme ça, mais pourquoi on laisse tourner le monde à l'envers, sans prendre l'air, sans se donner le temps de le retourner à l'endroit où il fait bon vivre pour la fleur du genre humain, celle qui a besoin d'être arrosée.
Entre 16h et 18h sur France Inter avec Rebecca Manzoni. Christophe Coïc, vous ne le connaissez pas ? Peut-être que si, on va faire notre première partie de cette ronde de printemps. Allez, allez, on va faire tourner tout cela un peu partout en France. On va partir en Gironde avec Christophe Coïc qui est le président de l'association Sistune Nature, à l'effigie de la tortue d'Europe, qui a organisé d'ailleurs aussi le festival Territoire Sauvage, ça c'était il y a une semaine. Alors Christophe Coïc, bonjour à vous. Le printemps mode d'emploi chez vous en Gironde, près de Bordeaux ?
Salut Denis. Ben, ça se passe très bien, c'est la première journée de beau, donc toute la faune et la flore, ça explose. On a eu quand même des conditions climatiques un peu rudes, et là, ben voilà, les azurés des nerfs prins, le petit papillon bleu, là, commence à voleter. Là, devant moi, il y a une pyrite du chou qui commence à volter aussi. Les grenouilles commencent à chanter. Les cistudes pointent le bout de leur nez, donc c'est parfait. Les plantes commencent à fleurir. Tout le monde commence à butiner allègrement. On a la chance, nous, d'être sur un territoire, sur un site de captage de 238 hectares, donc captage des eaux protégées sur le territoire de Bordeaux Métropole. Et c'est formidable. Voilà, on est dans un petit écrin de verdure.
Ce qui veut dire que l'on fait quand même avec la nature. On a sanctuarisé, et heureusement que l'on a sanctuarisé ces zones de captage. Ou en tout cas, si on peut faire de l'agriculture, c'est du bio.
Voilà, et l'originalité, voilà, c'est ça. C'est que ce site a été protégé sur une grande surface. Il n'y en a pas 36 000 en France qui ont été protégés sur une telle surface. Ça a été protégé d'abord pour les nappes et pour l'eau. Et nous, on a mené un plan de gestion il y a déjà 15 ans en partenariat avec Bordeaux Métropole et l'exploitant sur ce plan de gestion et voir un peu la biodiversité qu'il y a. On est à 10 km du Grand Théâtre de Bordeaux pour situer un peu le site. Et on a plus de 50% des espèces de papillons de plaine de l'ex-région Aquitaine. C'est plutôt pas mal.
Ce qui nous renseigne sur l'état du milieu.
Ah, les papillons, ce sont des indicateurs, oui, de qualité du milieu, parce que chaque papillon est lié à une ou plusieurs plantes.
Christophe Coïc, je sais que la dune du Pilat que vous affectionnez n'est quand même pas très loin. Il faut quand même aller vers le sud, on est bien d'accord. Hein. C'est le bassin d'Arcachon qui est derrière. Mais au printemps, parce que vous y avez été là il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que ça donne? Comment ça se passe dans ce coin tourmenté par les courants?
Ah ben c'est magnifique. Il y a la réserve naturelle du Bandarguin, gérée par la Cépenceau. Il y a le parc marin nouvellement créé, hein, c'est tout neuf. Alors il faut que ça se mette en place, mais toute cette idée de parc, voilà. Le public a une méconnaissance de qu'est-ce que c'est qu'un parc naturel régional. Oui. Pas uniquement au niveau du paysage, de la biodiversité, du territoire, mais aussi de l'élevage, bio si possible, la conservation des races, la démarche artisanale, etc. etc. Nous, c'était l'idée de montrer ça, y compris au niveau des parcs marins. Quoi.
Lorsque l'on parle de conservation des races, il n'y a pas une petite vache marine qui traîne par là?
Il y a une vache marine sur la réserve naturelle de Cousseau qui a été sauvée in extremis. Il faut savoir que la vache marine, a priori, c'était des individus échappés sur des grandes transhumances de l'Espagne vers la Charente. C'est des individus échappés qui sont devenus à moitié sauvages. Et le dernier troupeau avait été sauvé par le Conservatoire des races d'Aquitaine à l'époque.
Christophe, encore une petite bouffée de printemps que vous aimez, que vous avez sous les yeux peut-être.
Voilà, je suis à côté de la mare qu'on a créée pour l'éducation à l'environnement pour les scolaires. Nous, on a la chance que les cistudes vont et viennent en train de se balader de la rivière et elles sortent toutes juste des hivernations et elles vont coloniser les petites mares, etc. en prévision de la reproduction, de les accouplements, et elles vont se mettre à pondre au mois de juin. Donc voilà, c'est fantastique. On a les aulnes qui sont en face de moi, la rivière qui reprend son cours et les iris sortent déjà et vont pas tarder à fleurir. C'est merveilleux.
Merci à vous Christophe, à très bientôt.
Merci Denis, à bientôt.
Et on s'est promis d'ailleurs un reportage chez vous un petit peu plus tard. C'était notre première bouffée de printemps, donc on était en gros à 0 ou 10 mètres d'altitude. Allez, on va maintenant à 1200, 1300 mètres, on va du côté du pied du Mont Guillaume, à l'orée de la forêt, on est encore dans les champs, dans les prairies. Où sommes-nous? Nous sommes dans le département des Hautes-Alpes, nous sommes au-dessus d'Embrun, et là on rejoint Christian Couloumi, notre homme de la montagne, président d'Envergure Alpine, une association qui s'intéresse au grand rapace, Christian Couloumi, dans les Hautes-Alpes.
Bonjour, Denis.
On a déjà des oiseaux, mais alors partout, ça s'est fait, là, ça y est.
Oui, alors ils ont peut-être dû attendre un peu le mauvais temps qui a précédé ce beau printemps-là. Ils ont dû être coincés un peu en bas dans le sud, et là, quand ça se débouche, eh ben, ils partent tous ensemble, et on commence à voir arriver les uns après les autres, comme dans toutes les régions de France, d'ailleurs, je pense. Montagne peut-être un peu plus tard, parfois. Eh ben, les hirondelles, ici, de rochers, qui sont arrivées. On a vu ensemble un rouge cafron blanc, qui était déjà là.
Un passant du Nord, qui est beau, là, orangé.
Oui, ça veut dire qu'il n'est pas encore parti. C'est qu'on est encore à l'interface entre l'hiver et le printemps. Et qu'eux sont des oiseaux de l'hiver pour nous. Ils viennent du Nord. Je ne sais pas vraiment d'où il vient, celui-là. Peut-être de Suède, de Norvège, de Finlande. Et il va repartir bientôt. Déjà, il a le beau casque noir, le mâle en tout cas, et ses belles couleurs orange. Et puis les hirondelles le croisent. C'est marrant, ça, c'est des estivants qui croisent les hivernants.
C'est ça. Alors, le Milan est arrivé.
On les a vus.
Il revient d'Afrique.
D'Afrique, exactement. Le circaète, il attend un peu que ce soit déneigé, parce qu'il a beaucoup neigé cette année. Et les serpents, sur la neige, ils sont pas champions. Ils peuvent essayer de mettre des raquettes, mais ça marche pas. Non, c'est pas un bon plan pour les circaètes quand il y a de la neige comme ça. Mais enfin, il suffit de quelques journées chaudes pour que toute cette neige, elle remonte peu à peu le versant, et puis qu'on aille vers l'été.
Je m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert.
L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Parce que tu trouves ça calme, toi?
Ben oui.
Ah, merde. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.
Alors on va lever les yeux au ciel, et là on a le mont Guillaume qui est au-dessus de nous, donc on est là on est limite, si vous voulez, on s'est posé limite, on va dire, encore prairie, on a le début donc de la forêt.
On est dans le montagnard.
Non, c'est ce qu'on appelle le montagnard.
L'étage montagnard, ouais.
Alors là ça circule quand même beaucoup déjà, hein, donc les marmottes là c'est fait là quasiment,
oui. Bah les premières sont sorties maintenant, hein. C'est vrai qu'avec l'enneigement qu'il y a en altitude, elles sont pas encore dehors, mais oui, elles sont sorties. Et puis le printemps, c'est quand même une émotion qui dure peu de temps. Ici, en tout cas, c'est explosif, ça vient d'un coup, et ça part aussi vite que c'est venu. Et on se retrouve en été, on se retourne, mais c'est déjà fini le printemps. On voudrait que ça dure toujours, et puis le printemps, ça ne dure qu'un moment.
Qu'est-ce qui vous plaît, vous, Christian Coloumi, quand vous voyez ce printemps arriver? Qu'est-ce qu'il y a comme signaux, j'ai presque dire, en vous?
Eh bien, c'est un peu comme toutes les saisons, en fait. Et c'est pour ça qu'on est content toute l'année. C'est qu'on a un pays où il y a des saisons. Elles sont notamment très marquées en montagne. Et l'arrivée du printemps, c'est super. L'été, ben, il faut le passer, c'est bien. Et puis l'automne est tellement beau ici que c'est bien aussi. Et puis on est impatient de la neige en automne. Et puis quand on est dans la neige de l'hiver, et ben, on est impatient du printemps. Et le printemps, c'est maintenant.
Et même si on n'est pas dans le coin du gypaète et de barbu, votre oiseau que vous aimez beaucoup, qu'est-ce qu'il fait?
Eh bien, justement, Envergure Alpine a le plaisir de vous annoncer que pour la première fois depuis 100 ans, dans la région dont nous nous occupons avec Cathy Ribaud, qui était à l'association, eh bien, un couple, même un trio, parce que c'est comme ça chez les gypaètes parfois, ils couvent.
Cela ne nous regarde pas.
Non, cela ne nous regarde absolument pas. Mais ils sont quand même trois, deux messieurs, une dame. Ils se relaient chacun leur tour pour couver. Et puis, on attend un heureux événement bientôt, donc l'éclosion d'un petit gypaéton.
Mais c'est rare, ça?
C'est de moins en moins rare, puisque le programme gypaète a permis de réinstaller cette population dans les Alpes entières. Mais pour nous, c'est tellement rare que ça s'était jamais produit, comme je vous disais, depuis 100 ans. Donc c'est un très grand événement pour nous.
Christian Coloumi, je suis un gypaète, j'ai toujours mon même mode alimentaire, c'est-à-dire que je vais prendre, allez, tenez, un os que m'ont laissé peut-être les vautours, et puis je vais prendre un peu de hauteur, puis bah tiens, je vois un caillou, et puis je vais le lancer dessus.
Exactement. Je sais par contre que votre régime à vous, Denis, c'est pas celui-là. Oui. Ah, vous faites pas croire aux auditeurs que vous mangez des os. Non, le gypaète, oui, il fait ça, c'est vrai. Il les avale tout rond, et quand c'est trop gros, il les casse. D'accord. C'est incroyable.
Il se nourrit que de ça ou...
Essentiellement, quand on voit un gypaète circuler avec quelque chose, c'est un os, quoi.
Et donc ça veut dire qu'il n'est pas en concurrence avec le vautour?
Il arrive derrière. À la fin du banquet, il vient manger les restes osseux.
Et notre aigle? Pas non, lui, il ramasse quand même beaucoup de choses.
Tout, lui. Il est vivant, tout, mort,
il prend.
Mais il broute pas.
Allez, une petite image de printemps qui vous plaît, vous, ici, dans ces Hautes-Alpes.
Ah ben, écoutez, moi, je prendrai une image du printemps qui est une image un peu sonore, d'ailleurs. C'est le matin au lever du jour, et quand on est peut-être encore dans le lit, la fenêtre entrouverte, et qu'on entend les oiseaux. On sait que c'est le printemps, juste par les oreilles, et je suis sûr que vous allez pouvoir enregistrer les oiseaux qui nous réveillent. C'est pas plus mal que les informations ou que...
C'est aussi bien. Tenez, on vous les offre, d'ailleurs. Ça y est, ils arrivent, ils sont là. À bientôt, Christian Coloumi.
À bientôt, Denis.
Pour un autre printemps, pour un bel été, pour un autre automne.
J'espère plein de printemps.
Et quand j'y étais sur place, donc il y a un peu plus d'une semaine, le lac de Serre-Ponçon était encore tout à fait vide, là, donc à côté d'Embrun, parce qu'il a été purgé, oui, pour en prévision de la réception donc des eaux qui vont être extrêmement abondantes avec la neige qu'il y a eu donc cette année du Kéra, de la Clarée, de la Durance et aussi de l'Ubaye. Alors, maintenant aussi, petit cadeau. Oui, petit cadeau, parce qu'il a toute sa place, là. Un botaniste qui était mieux qu'un expert, un raconteur du vivant, notre Jean-Marie Pelt, un homme qui est parti avant Higelin, polliniser les étoiles, enfleurir le ciel de ses mots, de ses histoires, et avec donc une illustration du printemps, bah oui, de ce printemps donc qui nous saisit physiquement, Jean-Marie.
Je sens que ça bouge en moi-même très fort. J'aime beaucoup les odeurs, par exemple, de l'herbe qu'on brûle à cette saison. Il y a à la fois une douceur de l'air et puis il y a dans l'air, dans les campagnes, toujours un petit peu d'odeur de brûlé.
Oui, c'est
parce qu'on refait la toilette de la nature.
Alors, racontez-nous donc le travail du printemps. En quoi consiste-t-il? En fait, ça n'a pas forcément un rapport direct avec le réchauffement de la température.
Contrairement à ce qu'on croit, non, pas du tout. Il arrive souvent qu'il fasse très beau, et enfin, souvent maintenant, depuis que le climat se réchauffe, nous n'avons plus d'hiver. Et il arrive que tout d'un coup, au mois de janvier, on est à 18 à Biarritz. Donc il fait très chaud, très bon, très bon. On dit c'est le printemps en hiver. Mais si vous regardez les arbres, ils ne bougent pas. Il ne se passe rien. Et il ne se passe rien parce que c'est la longueur des jours que les plantes lisent. Et il commence à se passer quelque chose quand les jours deviennent aussi longs ou plus longs que les nuits, c'est-à-dire à partir, effectivement, de l'équinoxe de Mars.
Donc c'est ça qui enclenche le processus.
Et c'est ça qui enclenche le processus. Ouais. Et alors, il y a un processus de floraison qui s'enclenche d'ailleurs avant le processus de feuillaison. Alors ça, on ne sait pas non plus. Mais si vous regardez les arbres, des vergers, il n'y a pas de feuilles encore. Mmh. Il n'y a que des fleurs. Et les abeilles ne sont pas gênées pour faire la pollinisation par des feuilles qu'elles devraient contourner pour aller d'une fleur à l'autre. Elles ne contournent rien du tout, elles vont directement d'une fleur à l'autre et très rapidement, et elles font la pollinisation. Si vous regardez dans les sous-bois, vous voyez sur le sol fleurir les petites anémones, c'est très très beau le sous-bois au printemps. Les anémones fleurissent, les petites cils bleues, toutes bleues, là, cette petite fleur bleue qui est très jolie aussi, les coucous naturellement, la ficaire, enfin il y a beaucoup de... La jacinthe des bois dans la France océanique, pas dans ma région, mais dans le nord de la France, c'est très très beau, il y a des bois qui sont... absolument recouvert au sol de cette belle jacinthe bleue.
Et donc il y a moins de lumière quand même.
Et tout ça, et non, tout ça fleurit parce qu'il y a beaucoup de lumière encore. Parce que les arbres n'ont pas fait leurs feuilles. Voilà, et comme les arbres n'ont pas fait leurs feuilles, ils ont le temps de fleurir parce qu'ils ont beaucoup de lumière pour fleurir. Et les arbres qui n'ont pas fait leurs feuilles, en fait, font leurs fleurs. Mais leurs fleurs, on ne les voit pas parce que c'est des chatons. Alors on connaît les chatons de saule, on connaît les chatons de noisetier, mais on ne connaît pas les chatons que font les hêtres, les charmes... les chênes qui font des chatons, et le vent emmène le pollen d'un chaton à un autre chaton très facilement parce qu'il n'y a pas de feuilles, donc il n'y a pas d'écran.
Alors si on prend un autre écosystème comme par exemple les prairies, les prés qui vont passer d'un seul coup du gris au vert, là on est face à des plantes vivaces, c'est ça?
Alors là ce sont des plantes vivaces pour la plupart, oui, des graminées qui sont vivaces et qui repartent de la base très 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 fortement.
Jean-Marie Pelt, est-ce que l'on peut dire pour conclure en fait que cette marée végétale répond au soleil de la même manière que la marée océane répond à la lune?
Absolument, c'est tout à fait ça. C'est une marée solaire, c'est le déplacement du soleil vers le zénith au fur et à mesure que chaque jour il monte plus haut dans le ciel qui entraîne cette montée de sève qui déclenche tout le processus de la photosynthèse qui était arrêté en hiver parce qu'en hiver la nature est au chômage dans nos régions. C'est un vrai chômage, chômage technique.
Donc la voix de Jean-Marie Pelt. Alors après la Gironde, après donc les Hautes-Alpes et sa Lorraine, eh bien à suivre le Morbihan et aussi avec Pef, auteur de livres de jeunesse, nous partirons dans l'Orne aussi pour débusquer le printemps.
CO2, mon amour.
Tommy Ungerer, juste une petite question. L'arrivée du printemps, est-ce que ça vous met en joie en Irlande?
J'ai rien à foutre avec les festivités. Hein.
Mais je parle simplement de la saison. C'est-à-dire lorsque le printemps arrive, ça vous plaît quand
mais
vous quittez
pourquoi donner une date aux saisons?
Très bien, oui.
Écoutez, moi, je suis un homme libre. Les saisons, c'est tous les jours. Ma vie n'est pas dictée par des années ou par des saisons.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite joie lorsqu'il y a des bourgeons qui se mettent à éclore chez vous?
Ah, mais évidemment. Moi, mon idéal, c'est une feuille morte qui commence à bougeonner.
Sur France Inter.
Et oui, dans la même émission, vous allez avoir à la fois PEF dans CO2 Mon Amour tout à l'heure, et puis Tommy Ungerer que j'avais tourné, vous l'avez peut-être entendu il y a 2 semaines. J'ai pas résisté à vous passer ce petit extrait. Voilà, bien senti. Alors, maintenant nous allons continuer notre ronde merveilleuse. Faites tourner la carte de France, faites fleurir les bourgeons, et au bout de vos jeunes pousses, eh ben, on va faire jaillir les saisons. Avec vous, Élise Rousseau, bonjour à vous. Vous êtes auteur et journaliste. Nous partons en Bretagne, cette fois-ci dans le Morbihan. Et alors, vous avez devant vous la rivière Etel, hein, le Riad Etel, qui est un petit fleuve côtier du Morbihan, qui coule dans un aber, 35 km. Alors racontez-nous votre printemps.
Bonjour Denis. Alors moi d'abord, j'ai trouvé que c'est un printemps très tardif. J'ai vraiment l'impression que ça date d'il y a 2 jours, qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une vibration dans l'air, il y a aussi l'odeur du printemps, cette espèce d'odeur de miel en fait, avec le soleil qui chauffe les plantes, les premières feuilles, les premiers bourgeons, l'herbe qui pousse. Puis évidemment les oiseaux. Il y a 2 jours, là, j'ai entendu pour la première fois le coucou. Ce coucou, en fait, c'est pour moi, c'est vraiment le printemps. Dès que je l'entends, ça y est, on y est.
Et lorsque vous regardez vos chevaux, je sais que vous êtes à la fois une amoureuse des chevaux et des poules. Comment ils réagissent?
Ce qui est rigolo, alors, c'est les poneys. Bon, déjà, ils n'arrêtent pas de jouer parce que ils sont contents d'avoir un peu de soleil, tout ça. Mais on a aussi des oiseaux. Ce matin, j'avais notamment un étourneau sansonné qui était sur la croupe d'un des poneys. Je pense qu'il était en train d'essayer de plus ou moins ramasser. Vous savez, avec la mue du printemps, il y a le poil qui tombe. Et puis, quelques minutes après, je l'ai vu aller ramasser des brins de paille, en fait. Donc, lui, ça lui va très bien qu'il y ait des chevaux. Il y a aussi une bergeronnette grise qui est venue aussi ramasser des poils il y a 2-3 jours pour faire un petit nid bien douillé. Donc, tous les gens qui ont des chiens à grosse fourrure, des poneys, c'est le moment de les brosser, de laisser traîner les poils pour les petits oiseaux dans la nature.
Ouais.
Et quant aux poules, elles se sont mises à couver. J'en ai 3 petites, là, qui sont très sérieuses, très concentrées. Elles sont mises tous les 3 dans le même nid. Et c'est parti pour couver, là. Donc, ça dit que pour les animaux domestiques aussi, effectivement, le printemps est bien là.
Vous avez aussi sorti, et là, je m'adresse à l'autre partie de l'écologiste que vous êtes, cet ouvrage aux éditions Delachaux et Niestlé, et ça, c'est tout à fait récent, c'est « Mais pourquoi j'ai acheté tout ça ?»
Parce que la surconsommation, en fait, on en parle peu, mais c'est à la base de tous les problèmes environnementaux et même sociétaux actuels. Hein. Cette surconsommation qui a un impact désastreux sur la biodiversité. Là, on sait qu'il y a 1/3 des oiseaux en moins en 15 ans. Moi, c'est quelque chose que je ressens aussi année après année. C'est le côté moins positif. On se dit qu'il y a quand même moins d'oiseaux. Il y a moins d'oiseaux qu'avant. Il y a des animaux aussi qu'on ne voit plus. Les hérissons, par exemple, au beau jour. Moi, quand j'étais petite, je voyais des hérissons. Depuis combien de temps j'ai pas vu de hérissons? Ça commence à faire longtemps. La surconsommation, il faut y penser, tous nos gestes au quotidien ont un impact en fait.
Élise Rousseau, puisque donc nous sommes toujours face à ce petit fleuve côtier du Morbihan, quelle couleur il a, donc cette rivière d'Etel?
C'est des couleurs irisées, moirées, en fait c'est des reflets permanents. En fait, je ne peux pas vous donner une couleur parce que ça change tout le temps au fil de la journée. Chaque jour c'est différent, c'est ça qui est magnifique en Bretagne, c'est vraiment les lumières. Et alors les lumières d'hiver sont superbes aussi, mais au printemps ça commence à devenir un peu plus chaud. Il y a la mer qui se réchauffe aussi, on voit les premières sternes, Pierre Garin et Coget qui commencent à revenir de leur migration d'Afrique.
Élise Rousseau, avant de se quitter, alors une dernière petite couleur de printemps?
Alors une couleur nocturne peut-être. Hier soir, je me suis promenée au crépuscule en fait autour de chez moi dans mon pré et j'ai entendu en fait les premières grenouilles de l'année. Donc ça, j'étais très contente. En fait, c'est les rainettes pour la première fois qui se mettent à croasser. J'ai pas encore vu de chauve-souris, mais j'ai des amis qui en ont vu. Je gâte attentivement pour essayer de voir la première parce que pour moi, c'est aussi une fois qu'elles sont réveillées, c'est aussi la belle saison qui arrive. En fait, c'est ces petites chauves-souris qui volaient au crépuscule. Par chez nous, on n'a pas de rossignol. En fait, l'aire de répartition s'arrête dans le sud du Morbihan, mais par contre, on a quand même le rouge-gorge qui s'égosille tardivement dans la nuit. La grise musicienne s'arrête un petit peu plus tôt. Et puis, on entend encore le coucou aussi au dernier moment du crépuscule qui nous dit que ça y est, le printemps est là et que les beaux jours reviennent.
Merci à vous, Élise Rousseau. Alors, ronde de printemps sur France Inter, dans CO2 Mon Amour, toujours. Début de semaine, j'ai eu la chance d'être en Normandie. J'étais du côté de Putange. Alors, nous sommes dans le très beau département de l'Orne, avec un homme, Pierre-Élie Ferrier, P-E-F, autrement dit PEF, hein, qui s'est fait piquer un peu l'acronyme par l'autre. Non, donc là, on a vraiment le vrai, on a l'original. Écrivain et dessinateur tout à fait militant, le prince des mots tordus, vous connaissez, le grand jour, le catalogue des enfants du monde entier, que sais-je, enfin, y en a beaucoup, beaucoup, Zaplaguerre, etc. Et donc, nous sommes chez lui, dans le département donc, de l'Orne, à la césure avec ce vieux massif, on va dire, hercynien, et le bassin parisien, qui lui est sédimentaire, ce qui vous donne des paysages différents, parfois de grandes plaines, et là, on est plutôt dans le bocage, avec ces vergers de hautes tiges que sont les pommiers, donc sur du granit et sur du schiste, et nous allons découvrir ce printemps avec ce formidable raconteur qui est Pef dans le département de l'Orne.
Bonjour Denis. Eh bien, nous sommes ici dans le dernier morceau du massif armoricain. Vous pourrez voir à gauche des rochers de granit laissés par l'ancien cours de l'Orne, ah oui, qui, en venant du côté du Mans ou d'Alençon, s'est trouvé face à ce dernier morceau du... Mais ça ne lui a pas fait peur.
Non.
L'Orne est un fleuve, hein, ce n'est pas une rivière. Et il a creusé cette veine à travers le granit, et il y a même des à-pics plus loin, de 117 mètres de haut, il y a de l'école d'escalade. Ce qui est très étonnant pour un endroit pareil, qu'on a appelé, parce que les gens ne voyageaient pas, on a appelé ça la Suisse normande. Et oui, surtout cette colline-là, moi je l'ai choisie parce qu'elle me rappelle ma colline bourguignonne où enfant je gardais les vaches, les chèvres et les moutons.
À Saint-Jean-des-Vignes.
À Saint-Jean-des-Vignes, en Saône-et-Loire. Et j'ai gardé un souvenir très fort de ces étés lumineux avec cette pente qu'il a qui descend jusqu'à la rive du lac.
Alors ce printemps-là qui se fait un peu tirer l'oreille, hein, faut quand même bien le dire, comment il se manifeste dans ce lac ? Qu'il doit chanter un peu de temps en temps.
Alors, il chante l'hiver, quand il y a des périodes de gel. J'ai déjà vu des gens faire du hockey sur glace, là. Hein. Mais cet hiver, c'était 2,5 cm. Et alors là, Denis, vous voyez, dans la surface du lac, je viens m'asseoir ici. Et le lac sous la glace, ça te fait... des sortes de borborygmes intestinaux. Et parfois, c'est un coup de tonnerre. Et parfois, c'est un train. C'est peut-être le transsibérien de Blessandra,
ah ouais,
qui passe sous la glace.
Alors là, je ne sais pas si c'est comme sur une bonne partie de la France, mais le type qui avait son ardoise de ciel bleu, à mon avis, il est en grève ou il est en RTT. Hein, voilà.
Les éclaircies n'ont pas d'avenir.
C'est ça.
Peut-être que ce soir, on aura la chance que le ciel se dégage. Et comme il n'y a pas d'éclairage public, les nuits sont offertes à moi avec toutes leurs étoiles, leurs constellations.
Alors racontez-nous.
Il y en a une qui s'appelle la main d'Orion, qui est chère à Blessandrars, parce que Blessandrars disait que son bras qui était coupé était remonté en hauteur.
Oui.
Et sous la main d'Orion, il y a trois étoiles légèrement inclinées qui brillent, Alminac, Mintaka et Milanam. On dirait un avion qui va atterrir. Et comme j'ai une passion pour l'aviation féroce, ces étoiles m'arrivent au début de l'hiver. Et en ce moment, elles sont en train de filer derrière l'horizon. Elles vont de l'autre côté de la Terre et je les reverrai que l'hiver prochain.
Une abeille un jour de printemps vole-t-elle gaiement sur la rose bruyère en fleurs dont si douce est l'odeur.
Je suis rempli de joie parce que je vois les chatons, des merisiers. Là, il y a un merisier qui est là. Les bambous qui, eux, ont bien passé l'hiver. Il y a les chênes qui commencent à avoir un peu de flou au bout de leurs branches. C'est merveilleux. Et puis, c'est une grande joie. Et en même temps, je suis triste pour mes copines, les étoiles. C'est une amitié très forte.
Mais regardez, vous avez un Pouillot Véloce, là. Alors, il ne fait pas de vélo, celui-là. Mais non, il préannonce le printemps parce qu'il arrive avant les hirondelles. Hein.
Oui, oui. Mais vous avez chaque soir une fantastique bataille de corbeaux et de corneilles. On en voit quelques-uns à la lumière des arbres. Et c'est 250-300, c'est un concert. C'est le Woodstock vespéral. C'est des bagarres sans fin entre corneilles et corbeaux. Et le lendemain, les corbeaux reprennent. Il n'y a pas besoin de prendre le train, hein,
hein,
comme on parle en ce moment, de grève. Ils vont tous au boulot chercher dans les champs de blé derrière. Ils vont chercher de la nourriture et ils reviennent le soir. Ils donnent l'heure, quoi.
Alors, il y en a un petit qu'on aime bien aussi. Il a deux C. C'est le petit...
L'accenteur mouché.
L'accenteur mouché.
Il y a la théorie des mésanges, il y a,
oui,
il y a tout ça. Et les cormorans. voir un vol de cormorans et puis les oies sauvages qui klaxonnent au passage. Ouais. Le ciel était gris de nuages, écrivait Aragon, où il y volait des oies sauvages. Entre les murs et les maisons, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Et ouais, ça, pouvoir faire un copier-coller entre ce que je vois des oies et la poésie d'Aragon, ça me plaît beaucoup.
Il est très beau ce chêne dedans là.
Quatre chênes qui sont là. Ouais. On a eu la chance d'avoir des chênes bien élevés dès notre arrivée ici il y a 10 ans. Et ce qui est formidable, c'est que quand le vent se lève, on entend à la fois la chanson mélancolique des fils électriques, on a aussi le grand brassage du vent sur les chênes. Et c'est Jules Renard qui disait « C'est bizarre que l'ombre d'un arbre ne puisse jamais faire le tour de l'arbre. »
Et dans ce printemps naissant, Pef, ce chêne, on dirait qu'il n'a enfin, pas encore choisi son vert. Quoi. Il a son nuancier quelque part en lui. Et il se dit, ça va être quoi la teinte 2018?
Moi, je l'attends comme on attend un amour. Elle va arriver, cette teinte. Elle va être timide. Elle va être fragile. Elle va être vaporeuse. Elle va prendre de la tonicité. Elle va s'assombrir. Et entre le printemps et l'été, il va y avoir de l'ombre d'à l'intérieur des feuilles qui préviennent l'arbre, ouais, en lui disant voilà, l'été arrive, couvre-toi, ne prends pas le soleil, fais de l'ombre aux humains qui sont sous toi. Mais il y a une palette de vert qui est fabuleuse jusqu'à ce que l'automne commence à déshabiller les arbres au moment où ils avaient de beaux habits. Mais je cache pas que l'arrivée de cette petite brume vert clair imprécise autour des arbres comme un signal avant-coureur, comme un écho d'un vaisseau spatial qui vient de très très loin, et ça arrive chaque année, c'est la même émotion. C'est pas des sentiments futiles, je crois que c'est cela aussi l'horloge du temps. Elle arrive par les couleurs et les formes.
De temps en temps, vous ramassez des bouts de bois là aussi?
Oui, parce que alors on a des vents,
là, sur votre bureau, là,
on a 8 km de lac, ouais, et souvent par grand vent arrivent les bois flottés. Alors certains sont juste bons à sécher et puis ça sert de bois de chauffage. En 10 ans, je n'ai pas acheté un seul stère de bois. Mais parfois, on trouve un bois flotté et on se dit mais c'est pas possible, il y a vraiment un oiseau dans cette branche-là. Alors c'est du pin, alors on prend une ponceuse, on déshabille l'écorce, sous l'écorce apparaît le cœur du bois, qui est très dur, parce que le bois flotté c'est vraiment très dur. Donc on passe la ponceuse, ensuite c'est du papier de verre, et ensuite on encaustique, on passe une cire, une encaustique dessus, et on habille, et là, l'oiseau apparaît. Ce n'était rien qu'une épave de vie, mais qui commence une autre vie au sec. Et je m'attache à ne rien modifier dans le bois flotté, de façon à ce que ce qui était là ne soit que bien présenté.
Et puis, on peut peut-être voir un poème dans l'air, un poème volé.
Ah oui, pendant un certain nombre d'années, j'ai voulu offrir à la nature les mots qu'elle ne peut pas collectionner. Ouais. Et j'ai loué une bouteille d'hélium. J'ai attaché des poèmes plastifiés, comme il y a bien des bouteilles à la mer, mais il y a des poèmes à l'air. Ouais. J'ai attaché ça avec une grande bande de travaux publics rouges et blanches. J'ai mis un mot en anglais, un mot en français. Je les regardais disparaître. Parfois, ils disparaissaient dans les nuages. Parfois, je me désolais parce que ils montaient à la verticale. Il n'y avait pas un poil de vent. Il va me retomber dessus. Mais la plupart ont atterri dans les fleuves, au sommet des arbres, partout. Et j'ai eu 2 réponses sur une centaine de poèmes. Ouais. Et la première réponse que j'ai reçue, on n'échappe pas à son destin d'écrivain et d'auteur, d'illustrateur pour la jeunesse. Il est tombé dans une cour d'école. Et l'institutrice a dit « Alors, Pef, on nous écrit sans même mettre l'adresse ?»
Et ça a fait plaisir, évidemment, à vos parents et à votre maman, parce que vous êtes né, vous, dans une cour d'école. Hein, donc...
Oui, oui, dans un logement de fonction. Il ne faut jamais infliger ça à un enfant. Ouais. Parce qu'on est, même quand on est à l'école, on est malade. Même quand on est malade, on est encore à l'école.
Pef, avant de se quitter, une belle émotion de printemps.
Une belle émotion, c'est le matin, quand la journée va être belle et que le paysage est noyé de brouillard. Et on a l'impression que la rivière va sortir de son lit de brume. Et lorsque le soleil se lève, il joue le rôle d'un aspirateur. Et progressivement, c'est comme si quelqu'un retrouvait la vue. Là où il n'y avait rien, apparaît un lac,
les rideaux d'arbres. Et tout d'un coup, le paysage prend une netteté. C'est comme si on ouvrait les yeux sur un miracle. Et ça, c'est quelques journées, mais c'est quelques journées où le lit de la rivière se débarrasse de ses draps.
Merci beaucoup, cher Pef.
Merci à vous, Denis.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Plein d'histoires, que je continue à être au monde et que je fasse partager cette passion des gens, de l'autre, le goût des autres que j'ai, encore dans de nombreux livres.
Vous êtes conscient en permanence que là, vous avez des centaines de milliers, voire des millions de gamins qui ont pu apprendre à lire et à découvrir aussi la lecture grâce à tous vos albums. Quoi.
Voilà, donnez juste un petit truc très rapide au Salon du Livre. Il y a une jeune femme qui m'aborde avec une magnifique fontaine de cheveux blonds. Elle me dit « J'ai été victime d'un AVC quand je suis revenue au monde. Je parlais yaourt. » Et quelqu'un m'a offert Le Prince de Motordu. Et j'ai commencé à lire Le Prince de Motordu. Le Prince de Motordu parle un certain
Bien
yaourt,
sûr.
Puisqu'il habite dans un chapeau, il a des crapauds tricolores. Et elle a dit, mais c'est moi ça. Et si c'est dans un livre, je vais guérir. C'est pas une infirmité, c'est un état. Et elle a progressé comme ça dans le langage. Mais rien que pour ça, ça valait la peine.
Formidable Pef, un des plus courts chemins pour ne pas perdre son enfance. Bah, vous en avez deux. Vous avez Pef, qui est à lire, et puis aussi, accessoirement, d'écouter La Tulle du Bon Petit Loup le dimanche à 19h54. Et alors, des mots poèmes, bah, vous en avez plein dans Toujours un mot dans la poche, Toujours un mot dans la poche, aux éditions Bruno Doucet, donc, qui est signé Pef.
Je garde de la neige dans un coin de mon âme. Je garde de la neige quelque part dans mes pensées. Je garde de la neige quand l'hiver nous aura oubliés. J'aurai quelques flocons à ramasser. Je garde de la neige pour les prochains qui n'auront rien à se mettre sous les gants. Je garde de la neige en souvenir des longues glissées, des enfants revenant les fesses se geler. Je garde de la neige pour les années de sécheresse. Je garde de la neige pour ne pas oublier les matins blancs que nous avons laissés filer. Je garde de la neige mes lèvres gercées.
Un arbre. On est tombé sur un arbre.
CO2, mon amour.
Il vaut mieux tomber sur un arbre que de rentrer dedans.
Oui, mais qu'est-ce que vous faites là-bas ?
Avec Denis Chessou.
Vous voyez bien que la chance existe.
Sur France Inter.
Une ronde de printemps, toujours sur France Inter, dans CO2, mon amour. Donc, c'est la suite. Et là, on va aller très loin. Bah, 8000 kilomètres, dites donc, bien sûr. Pendant ce temps-là, je vous le signale, les cerisiers sont en fleurs dans le sud. Oui, oui, ça bouge un petit peu partout. Un homme qui a écrit Rêve de trappeur chez XO Éditions. J'ai profité de sa venue pour lui poser quelques questions sur le printemps. Il s'appelle Roch Boivin et c'est un trappeur du Yukon. Je vous le rappelle, nous sommes dans le nord-ouest du Canada, le Yukon. Vous avez 482 000 km² et vous avez 36 000 habitants. Donc, faut vraiment pas s'engueuler avec son voisin, on le sait. Alors, c'est une terre de grizzly, de saumon. Et alors, donc, ce printemps, comment il se manifeste? Roch Boivin, rêve de trappeur.
C'est rapide comme ça. Le pays du Yukon, c'est dramatique. Le printemps arrive 10 jours. Voilà, tac. T'as 2 mètres de neige, 10 jours plus tard, t'as les fleurs. C'est à fond comme ça, parce que le soleil de minuit, 1er avril, bon, je retourne chez moi le 1er avril, le 10 avril, le printemps va commencer à fond, et 15 jours plus tard, 10-15 jours plus tard, ce sera vert. Parce que le soleil monte et ne redescend plus. Ouais. Donc là, la fonte des neiges, c'est une tempête de fonte, là, ça fond, et là, il fait chaud, les oiseaux reviennent à fond, les oies, les oiseaux, ça vient partout, les animaux, ça sort, c'est une régénération de tout le pays. Donc c'est le plus beau temps de l'année pour nous, vraiment, c'est le printemps. Et plus au nord tu vas, et plus rapide que c'est. Quand tu arrives sur la côte du nord, moi j'étais dans la côte du nord, je faisais une étude avec Bob Frisch, c'est dans le bouquin, je crois, sur la prédation des grizzlies sur les caribous. Et je suis arrivé là, il y avait 2 mètres de neige. Et 10 jours plus tard, j'étais assis tout près du feu et toute la neige était partie. Les vallées avaient été inondées d'eau. Dans 10 jours, tout avait été parti. Il y avait des fleurs. Le premier, c'est toutes les fleurs blanches. La toundra devient blanche. Après, ça devient jaune. Toutes les fleurs jaunes sortent. Et là, tu as toutes les fleurs bleues qui sortent. Et les rouges après. Et après ça, les graines sont faites. Ça tombe par terre et l'hiver revient.
Et donc 15 jours de printemps, on a de l'hiver, on a l'été quand même.
L'été, c'est super bon parce que c'est très chaud. Ça monte à 35 degrés. Ça vient 35 degrés centigrades quand même. Ça vient chaud parce que le soleil ne se couche plus. Donc là, la température ne peut pas redescendre. Ici, vois-tu, à Paris, quand le soleil descend, ça refroidit un peu, on peut dormir. Là, non, pas là-bas. Plus au nord tu vas, plus il fait chaud. Jusqu'au 69e parallèle, tu vas arriver des températures de 35 degrés. Moi, j'ai vu des gens... Les Esquimaux, 23 degrés, ils s'évanouissent parce que c'est des trucs de chaleur tellement intenses pour eux. Et c'est incroyable. Et maintenant, ça monte à 30 degrés. Mmh. Imagine-toi. Donc là, tous les autochtones, c'est rigolo, des petites maisons, des petites tentes qui ont des airs conditionnés. Ils vendent des airs conditionnés. Tu vois, les petites cabanes en bois rond, avec un air conditionné dans la fenêtre, parce qu'ils ne peuvent pas endurer la chaleur, ça montait. Allez.
Sur le printemps, un animal, peut-être fétiche, et peut-être une plante fétiche aussi, que vous voyez, que vous attendez.
Toutes les baies que les animaux n'ont pas bouffées, qui ont fermenté durant l'hiver sous la neige. Quand tu es dans les bois, c'est la première chose que tu peux avoir au printemps, c'est une belle tarte de cranberry. Ouais. Ils ont passé l'hiver sous la neige, mais ils n'ont pas bougé, ils ont gelé, ils étaient gelés à moins 40 tout l'hiver, les berries, ils n'ont rien perdu. Donc aussitôt que la neige départ, on commence à ramasser les petites berries qui restaient de l'année dernière, c'est dur parce qu'il n'y en a presque plus. Donc on chope, et voilà, tac. La petite herbe, c'est une herbe qui pousse haute comme ça, on fait des salades. Donc nous, dans les bois, on dépend beaucoup de ces choses-là. Et au printemps, pour nous, on attend la brise et des glaces. Très important, parce que là, on peut vraiment retourner sur les rivières qui sont nos routes en bateau. C'est 160 km de bateau pour descendre au village, si on descend par bateau. Et c'est merveilleux, au printemps, les ours sortent, tu vois, tout le monde, les petits arrivent. Le printemps, pour nous, c'est vraiment important.
Rock Boivin, trappeur du Yukon, rêve de trappeur chez XO et Édition. On le retrouvera un peu plus en longueur dans ces Hauts de mon amour plus tard. Et alors, tenez, on va se dire bienvenue au Ch'ti Printemps maintenant. Oui, allez, notre dernier voyage, ça va être donc dans le Nord, précisément le Pas-de-Calais. Nous sommes avec Vincent Coé. Bonjour à vous Vincent, vous êtes le responsable de la chaîne des Terrils, car vous êtes le directeur du Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement de la chaîne des Terrils. Donc nous sommes à Los Angeles. À quoi ressemble ce printemps?
Bonjour Denis, on est content là aujourd'hui d'avoir le soleil qui pointe, alors un printemps qui arrive avec les oiseaux surtout, les oiseaux migrateurs. On a un phénomène assez particulier avec ce printemps cette année, c'est que d'un côté on a nos oiseaux hivernants, donc ceux qui sont venus passer l'hiver chez nous, et bien qui traînent un petit peu, qui sont encore présents, et on a eu des oiseaux qui ne sont pas forcément là tous les ans, et qui ont été bien présents cette année.
On a eu quoi? On a eu des gros becs, par exemple ou...
Tout à fait, voilà, t'as dû en entendre parler, on a eu pas mal de gros becs, alors des espèces qui viennent des forêts du grand nord de l'Europe.
Moi, j'ai vu du tarin des aulnes.
Exactement, c'est ça aussi, donc j'ai encore plein de tarins là, qui passent, j'en ai encore entendu il y a 5 minutes, là, une petite bande d'une dizaine qui viennent de passer, qui étaient présents en mangeoire et qui tardent un peu à retourner chez eux dans les contrées nordiques, donc ils sont encore présents.
Alors on a cela et puis il y a quand même le retour des migrateurs aussi.
Alors c'est ça qui est formidable, c'est le beau phénomène, c'est qu'on a également le retour des migrateurs. Et donc là, par exemple, moi j'ai vu ma première hirondelle en début de semaine, on a la fouette à tête noire qui est rentrée, donc on a les retours des migrateurs transsahariens, mais en même temps nos hivernants qui traînent un petit peu, donc on a un très beau chassé croisé. On a un chassé-croisé avifaunistique ou ornithologique en ce moment sur les terrils, dans les forêts, dans les zones, dans les jardins du nord de la France.
Alors racontez-nous quand même ces terrils, parce que justement les gens se disent « Ah bah oui, c'est donc les stériles donc, de ces tas de charbon ». Mais en fait, il y a eu une recolonisation déjà depuis un certain temps. Je rappelle quand même qu'ils sont aussi au patrimoine de l'UNESCO aujourd'hui, ces fameux terrils. Et donc recolonisation, il y a des bouleaux, il y a toute une flore et toute une végétation qui a repris ses droits.
Effectivement, c'est en train de vraiment se recoloniser. Et quel plus beau moment de l'année pour voir cette recolonisation qu'au printemps, ou quand les terrils sont en train de se reverdir. Donc là, les bouleaux sont en train de sortir. On a les petits bourgeons qui sont vraiment en train de sortir. Donc ils sont en train tout doucement de regagner cette couleur un peu verdoyante et qui attire de nombreux insectes. Ce matin, j'ai vu mes premières abeilles aussi, les pollinisateurs qui sont en train de s'installer aussi. Ce qu'on appelle aussi les abeilles solitaires, par exemple, des osmies, très très belles abeilles avec le bout de l'abdomen marron.
Vincent Coé, regardons les mares aussi. Vous avez creusé, vous, un certain nombre de mares. Là, c'est l'effervescence.
Très très bonne année cette année. On a eu la chance. Il a fait froid, mais il y a eu de l'eau, beaucoup d'eau. Les mares se sont bien remplies. Alors, on avait fait un suivi des batraciens qui viennent dans cette mare. Et dans une mare de jardin, j'ai mis en place un petit dispositif qui permet de pouvoir les compter tous les jours et de voir combien de batraciens, de tritons, de crapauds viennent dans cette mare. Et là, je suis tout heureux parce que j'ai mon record. J'ai plus de 1250 batraciens différents. Bravo. Qui sont venus dans cette petite mare de jardin qui fait 8 mètres sur 4. Donc là, c'est vraiment l'effervescence. J'espère qu'ils vont bien se reproduire pour assurer les générations futures de petits tritons, de petits crapauds pour l'avenir.
Mais ce que j'adore chez les naturalistes comme vous, c'est que vous avez réussi à les compter quand même. Je ne sais pas comment vous avez fait pour...
J'ai une petite barrière en grillage très très fin tout autour. Et quand ils rejoignent la mare, la nuit, ils tombent dans des petits seaux. Et donc tous les matins, on vient les répertorier, on regarde l'espèce, le sexe. Et après, on leur fait passer cette petite barrière pour qu'ils rentrent dans la mare. Barrière, enfin, toute petite, sera enlevée au retour quand ils vont vouloir regagner les jardins, les tas de bois et autres. Et ça nous permet comme ça d'avoir ce qu'on appelle des monitoring, c'est-à-dire de mettre en place des suivis comme ça réguliers et d'avoir justement des indicateurs fiables, précis sur l'évolution, sur l'état de santé de notre biodiversité, aussi bien celle qui est très rare que celle qui est la plus classique, celle des jardins notamment.
Grand merci Vincent et à très bientôt. Au revoir Vincent Coé.
Au revoir Denis, au plaisir.
Muriel Pérez était au disque, Vincent Godard, Julien Michel était à la technique, Camille Blanès, notre assistante, Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Que vous dire ? Eh bien que Camille sera notre invitée en direct la semaine prochaine.